travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être.
Son nom, Fouché, son nom.
Le 18 juin.
Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu, le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir.
Vous commencez par ces tiroirs, je suppose.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je vous parle en direct et en public, et quel public ? Depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois qui sont consacrés cette année pour leur 18e édition au thème des empires. La loi sur le renseignement qui a été adoptée par le Parlement le 24 juin dernier vient d'être validée presque intégralement par le Conseil constitutionnel. Elle accorde notamment aux services de l'État qui sont responsables de la sécurité nationale le droit d'installer des boîtes noires, comme on dit, chez les fournisseurs d'accès à Internet et d'avoir à l'œil, je devrais peut-être plutôt dire à l'oreille, l'entièreté du trafic afin de détecter des menaces terroristes à partir d'une surveillance automatique. Ce texte a été l'objet de vives critiques venues de nombreux acteurs du secteur qui s'inquiètent du risque d'atteinte aux libertés individuelles et aux principes de protection de la vie privée. Le président de la République et le Premier ministre se sont félicités de leur côté de cet aboutissement, tandis que le barreau de Paris faisait part, je cite, de la tristesse des avocats. Il s'agit ici d'un nouvel avatar d'un conflit récurrent. L'équilibre est toujours difficile à trouver en démocratie entre le souci légitime de protéger la société contre des menaces graves qui se dirigent vers elle, telles aujourd'hui le péril terroriste ou à la fin du 19e siècle la vague des attentats anarchistes, et d'autre part, la préoccupation de ne pas laisser entamer le droit de chacun à n'être pas espionné sans des motifs sérieux et individualisés. Je dis en démocratie, les régimes autoritaires, évidemment, n'ont pas les mêmes pudeurs. Mais leurs façons de faire n'en sont pas moins éclairantes, par ressemblance ou par différence, avec notre République. Et c'est ainsi que ce matin, nous allons nous intéresser à l'époque du Consulat et du Premier Empire. Emmanuel de Varesquiel vient de publier une imposante biographie de Fouché, puissant ministre de la police dans ces années-là. Bonne occasion de considérer avec lui, en rebond entre le passé et notre présent, les défis auxquels cette grande question fait s'affronter la conscience civique.
Nos carnets de santé,
nos poèmes, nos dessins,
nos demandes de congés,
nos premiers chats coquins,
nos recettes de cuisine,
nos relevés bancaires,
nos rencarts, notre planning
et notre compte à découvert.
Rien à se reprocher. Rien à cacher. Rien à se reprocher.
Rien
à cacher.
Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors, si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
Nos listes de choses à faire,
nos tendres SMS,
nos écrits de colère
et nos carnets d'adresses,
nos cafés préférés,
nos horaires de piscine,
nos ennemis jurés
et le nom de la voisine.
Rien à se reprocher. Rien à cacher. Rien à se reprocher. Rien à cacher.
Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée. et où on a vu que c'est à trois niveaux de relation que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA.
Nos cartes d'adhérents,
nos radios, nos scanners,
les photos de nos parents,
nos bulletins de salaire,
notre poids en chocolat,
nos drogues favorites,
les vidéos du chat
et nos idées politiques.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Nos mails inachevés.
Emmanuel de Varesquel, bonjour.
Bonjour.
Je viens de vous offrir la chanson qui s'intitule, ce n'est pas une surprise, Rien à cacher, rien à cacher, de la Parisienne libérée, consacrée naturellement à la protection des données personnelles et qui était ici chantée pour le site Mediapart en duo avec Jérémy Zimmermann en février 2014. Jérémy Zimmermann est le cofondateur de la Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet, très active ces dernières années. Alors, en réécoutant cette chanson, je me disais que peut-être Fouché ne l'aurait pas détesté.
Un rêve pour Fouché. Il l'aurait adoré.
Il l'aurait chanté dans sa salle de bain.
Et il ne disposait pas des moyens qui sont à notre usage aujourd'hui, mais je pense que s'il les avait eus, il en aurait fait bon usage lui aussi.
Il aurait été comme un poisson dans l'eau.
Probablement.
Parce que vous avez vécu là un bon moment après Talleyrand. Vous avez des fréquentations tout à fait honorables et néanmoins
un peu dangereuses.
Oui. Vous avez vécu après Talleyrand avec Fouché, et donc nous donnez la biographie magnifique. C'est un personnage qu'on ne peut jamais considérer complètement en soi. Il y a à la fois l'homme et sa légende. On peut d'ailleurs dire un mot de ceux qui se sont intéressés à Fouché, notamment sous l'angle qui est le nôtre ce matin, c'est-à-dire ses relations avec le secret et la transparence. Je pense à Louis Madelin, je pense à Stéphane Zweig.
Oui, la légende noire se constitue très rapidement autour de Fouché. À l'époque où il vivait, ses contemporains, ça commence d'ailleurs, le maître d'orchestre de la construction de cette légende, c'est Chateaubriand, qui le présente pour la première fois alors qu'il n'est pas là. Mais Chateaubriand n'est jamais meilleur que lorsqu'il décrit des scènes qu'il n'a pas vues. et il le présente au club des Jacobins quelques jours avant le fameux vote de la mort du roi, en janvier 1793. Et il a cette phrase remarquable: « Dans le cercle des bêtes féroces, Monsieur Fouché avait l'air d'une hyène habillée. » Ça commence bien. Et évidemment, on a comparé et assimilé Fouché à toutes sortes de bêtes féroces et carnivores. La hyène, bien sûr, mais aussi le tigre, le chacal, la panthère, la fouine, bien entendu.
Quelle zoologie.
J'en ai rajouté un petit peu en intitulant cette biographie « Les silences de la pieuvre ». J'ai trouvé que ce mythe très prégnant au XXe siècle de la pieuvre, qui est utilisé à chaque fois que l'on évoque une société multinationale qui a le goût du secret et une ambition dévorante, quelle que soit cette société, que ce soit une mafia ou un service secret quelconque.
Ou plus honorable, un grand éditeur. On avait parlé de pieuvre à propos de Hachette il y a quelque temps.
Voilà, donc c'est une façon en forme de clin d'œil de prolonger la légende, mais bien entendu le travail de l'historien consiste à passer de l'autre côté du miroir et à démonter ces légendes. Cette légende noire a été alimentée par un écrivain brillantissime, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est Stephen Zweig. Et qui,
Madelin, avant lui, au début alors, du XXe, c'est une grosse thèse.
Madelin, précisément, est le premier à essayer de passer, de démonter la légende. Il publie à la suite de sa thèse un remarquable Fouché en 1900, il a maintenant 115 ans. Zweig utilise Madelin, mais simplement dans le sens, je dirais, de la légende et pas dans le sens de la démonstration de l'historien. Zweig publie son Fouché en 1929, traduction française 1932.
On est dans une conjoncture spécifique.
Dans une conjoncture de montée en puissance des totalitarismes, déjà en Italie, bientôt en Allemagne, et il se sert de Fouché comme on agiterait un chiffon rouge pour prévenir ses contemporains de ce qui pourrait éventuellement leur arriver, ce qui fait, ne prétend qu'aux riches, que Fouché devient à la fois le père du totalitarisme et celui du communisme, ce qui est un peu beaucoup pour un seul homme.
On comprend, Emmanuel de Varesquel, que vous y ayez souhaité aller regarder les choses de plus près. Je voudrais que nous commencions en campant sa personnalité telle que vous l'apercevez, par-delà les légendes que vous venez d'évoquer, telle qu'il apparaît sur la scène publique, déjà en relation avec la grande problématique de ce secret, de cette police dont il va devenir un maître impressionnant et parfois effrayant.
Oui, ce secret, il le pratique comme révolutionnaire et comme terroriste, et comme conventionnel en mission. Il est élu député de la Convention de la Loire inférieure, Loire Atlantique aujourd'hui, en 1792. Il vote la mort du roi, et certainement pas par opportuniste.
Il a commencé comme oratorien, mais seulement avec les ordres mineurs. Il n'a pas été obligé promettre le secret de la confession.
On a fait de lui un prêtre. En effet, Talleyrand a été évêque, mais... Fouché n'a pas été consacré prêtre.
Il descendait des marches là de Talleyrand à Fouché.
Il était confrère de l'oratoire, mais la formation qu'il reçoit à la congrégation de l'oratoire, qui est la plus grande congrégation enseignante en France avant la Révolution, est déterminante. L'oratoire créé par Bérulle tourne au fond autour de trois idées. C'est le retour à l'unité du royaume, et l'unité, c'est un maître mot. Un des principes majeurs de la Révolution. Le deuxième élément d'oratoire, c'est la centralité. Toute l'organisation de la congrégation de l'oratoire est centrée sur Paris, sur l'institution principale de l'oratoire à Paris.
Bonne école.
La centralité, la jacobine, voilà encore une deuxième passerelle. Et puis le troisième maître mot de cette congrégation de l'oratoire, c'est l'égalité par rapport, par exemple, à d'autres congrégations enseignantes comme les jésuites. Les oratoriens préservent une certaine égalité de traitement des élèves, mais aussi des professeurs. Fouché a été professeur de mathématiques, ça c'est quand même important à souligner, pendant plus de 10 ans à l'oratoire, et le goût qu'il a eu par la suite de mettre la société en fiches et en chiffres et en statistiques vient peut-être de là. Hein. On pense au degré zéro de l'écriture.
Alors, avançons et braquons notre attention un moment sur la période où sa personnalité va se définir, c'est-à-dire au temps de la terreur et ensuite au temps du directoire.
Alors, sous la terreur, la convention thermidorienne et la réaction thermidorienne a fait des conventionnels en mission des proconsuls. En réalité, en effet, Fouché a eu un immense pouvoir, en particulier à Lyon, où il est envoyé en novembre 1793 pour réprimer l'insurrection fédéraliste et royaliste lyonnaise de l'été, en juillet 93, dans un contexte extrêmement tendu.
C'est le début de la terreur,
pas de la grande terreur de 94, mais de la première terreur, dans un contexte très tendu où la République est menacée à ses frontières, à l'est, au nord, au sud. Toulon est occupé par la flotte anglo-espagnole, et à l'intérieur même de la République, les insurrections se multiplient, dans l'ouest de la France, en Vendée, une partie du Midi, la République est également en insurrection. Et donc Fouché, avec Claude Herbois, qui est l'un de ses missionnaires qui l'accompagnent, est tenu d'appliquer à Lyon le mot d'ordre de Barrère: Lyon a trahi la liberté, Lyon ne sera plus.
D'ailleurs, Édouard Herriot, qui a été pendant plusieurs décennies maire de Lyon, a publié un livre qui avait eu du succès à l'époque, qui s'appelait précisément « Lyon n'est plus ». J'observe en vous écoutant que les périodes de guerre sont toujours favorables aux entorses qu'on peut faire aux règles de la protection des libertés individuelles.
Oui, il y a une phrase dans les mémoires de Fouché qui dit toute sa vie « la politique est la morale des circonstances ».
Est-ce que ça pourrait s'appliquer à la loi actuelle, vous pensez? Parce que ce n'est pas vraiment une guerre, mais c'est une forme de guerre contre le terrorisme.
On a un peu ce sentiment-là. En tout cas, Fouché applique sans scrupule et sans état d'âme une politique de terreur à Lyon. Il a quand même près de 2000 Lyonnais sur la conscience.
Il envoie des boulets enflammés. C'est depuis qu'on parle de boulets rouges. Tirés à boulets rouges,
ça c'est un épisode qui précède son arrivée à Lyon. C'est le siège de Lyon mené par Couthon à la fin de l'été, au mois de septembre 1793. Fouché arrive à Lyon alors que Lyon s'est rendu aux troupes de la Convention nationale et de la République. Et il mène la répression, démolition d'une partie de la ville et répression des coupables, exécution des coupables. Il crée des institutions révolutionnaires décalquées sur les institutions parisiennes, mais qui sont même plus importantes du point de vue de leur pouvoir. Une commission provisoire de surveillance et une commission révolutionnaire qui est en fait un tribunal révolutionnaire. Ce qu'on sait mal et peu, c'est que le tribunal révolutionnaire de Lyon envoie aux mitraillades et à la guillotine plus de coupables, entre guillemets de coupables, que le tribunal révolutionnaire de Paris entre novembre 1793 et mars 1794. On sait tous qui est Fouquier-Tinville, qui finira par passer lui-même sur la guillotine en 1795. Personne ne connaît le général Parrin, qui est le président du tribunal révolutionnaire de Lyon, un camarade de révolution de Fouché. Et Parrin, lui, va survivre à tous les orages et va finir par mourir tranquillement dans son lit sous la Restauration, après avoir servi d'agent secret à Fouché sous le Directoire, sous le Consulat et sous l'Empire. Ça en dit long de la méthode, de l'efficacité de Fouché comme ministre de la Police.
Alors il échappe à la Terreur. Il est là déjà tel qu'on le voit plus tard. Dans 93, Victor Hugo le décrit de la sorte: Fouché, âme de démon, face de cadavre. Et tous les contemporains sont frappés par ses yeux qui sont immobiles. Et
il a le physique de l'emploi.
Vous montrez le livre, vous oubliez que nous ne sommes pas chez Pivot.
Avec sa dégaine de faux témoin, ses yeux de poisson bouilli, sa bouche sans lèvres, son nez taillé à la serpe.
Quelle affection vous lui portez.
Nodier, qu'il l'a connu à Trieste beaucoup plus tard, en 1813, parle de l'immobile impassibilité de ses yeux de verre, ses yeux qui voient tout et qui ne vous disent rien. C'est ça, Fouché. C'est un être un peu longiligne comme ça, dégingandé, très osseux. Chateaubriand le compare très vite à un cadavre ambulant, avec une peau très très mate et très blanche, blême, des cheveux à demi roux, des yeux quasiment d'albinos, d'un bleu très pâle, délavé. Enfin, on n'aurait pas aimé le rencontrer au coin d'un bois en 1793, ça c'est certain.
Alors évidemment, après, il échappe à la Grande Terreur, et après le 9 Thermidor, il se trouve quelque peu désemparé, ce conventionnel. Et du coup, il plonge dans l'ombre au service de ce grand homme du temps, ce très influent, qui est Barras. Et on le voit, c'est une période intéressante, même s'il disparaît sous votre regard, il réapparaît néanmoins sous votre attention.
Oui, Fouché est l'un des tombeurs de Robespierre. Il y a participé, il n'est pas le seul, mais cette lutte à mort qu'ont menée les deux hommes finit par la victoire de Fouché sur Robespierre, si j'ose dire. Mais il est en même temps la victime de la réaction thermidorienne qui va dans le sens d'une épuration de la Convention, de tout ce que la Convention a compté de jacobins, de robespierristes et de terroristes. C'est d'ailleurs un grand problème par rapport à la légitimité même de cette Convention. Il en est la victime, il sera décrété d'accusation en août 1795, il se cache. La vie de Fouché est une vie extraordinaire, c'est à la fois la vie d'un homme d'État, mais c'est aussi la vie d'un aventurier et la vie d'un conspirateur. Il porte plusieurs casquettes et ce sont les montagnes russes, la vie de Fouché. Il passe quasiment sans transition des fêtes du pouvoir à la cachette qu'il trouvera dans Paris pour éviter les foudres soit des conventionnels thermidoriens, soit plus tard de Bonaparte puis de Napoléon.
En tout cas, c'est les périodes où vraiment, sans fausse honte, sans vergogne, il s'exerce à son futur métier, hein. Le renseignement, en le pratiquant lui-même. Il a des agents, peut-être on pourrait appeler des provocateurs aujourd'hui, qui opèrent dans tous les cafés patriotiques des faubourgs parisiens. Des moutons.
Dans les prisons.
Ça, c'est dans les prisons. Oui. Le mot durera, il est peut-être encore en pratique. Je n'en ai pas l'expérience. Gracchus Babeuf, qui était l'homme de la conspiration des égaux en 95, s'adresse à lui dans un texte qui m'a frappé de la façon suivante. « Tu as des relations avec le pour et le contre. » Tu t'insinues dans tous les partis, tu ne t'es pas prononcé dans les moments de péril, 9 Thermidor, tu as surnagé à toutes les proscriptions, et l'on n'a paru que faire semblant de te poursuivre. on ne sait que penser de toi. Il n'avait pas lu votre livre.
Bonaparte a dit exactement la même chose quelques années plus tard. Que faire d'un homme qui met ses pieds sales dans les souliers de tout le monde ? C'est ça, Fouché.
Alors, je n'ai pas évidemment d'archives avec sa voix, mais nous avons ce très beau film tiré d'une pièce de Édouard Molinaro qui s'appelle Le Souper. Le film est sorti en 1992. Je crois que notre public le connaît. Et j'en ai extrait ce morceau. C'est Claude Rich qui interprète le rôle de Talleyrand et c'est Claude Brasseur qui est dans celui de Fouché. Écoutons-les.
La passion. Quelle excuse. Quel argument. Que d'acquittement lui doit. La mienne est dévorante. Je suis à son service tout entier. Et tant que je vivrai. Son nom, Fouché, son nom. Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le démasquer. Le déchiffrer. L'ouvrir.
Vous commencez par ces tiroirs, je suppose.
Acheter la femme qu'il aime. Et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah ! Quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre. Épouvanté, méconnaissable. Une bougie qui coule.
Et qui éclaire votre vie. J'envie le roi dont vous serez ministre. En un mois, il en saura plus sur tous les siens que l'histoire ne lui en a appris en 10 siècles. Buvons. Allons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est point de cette façon que l'on doit boire le cognac. Regardez, s'il vous plaît. On prend son verre dans le creux de sa main. On le réchauffe. On lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum. Puis, on le porte à ses narines. On le respire.
Et puis,
on le repose et on en parle.
Belle manière, monseigneur, de sentir la mort. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse. C'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque, mais... redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible. Et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors, Emmanuel de Varesquel, vous retrouvez votre Fouché dans ce beau texte de Jean-Claude Briseville ?
C'est magnifique. Et les deux personnages sont magnifiquement incarnés dans la première mise en scène.
Le bruit de verre, c'est le moment où Claude Brasseur Fouché jette le cognac contre le mur.
C'est ça. Briseville joue volontairement, évidemment, de l'opposition sociale des deux personnages qui sont issus de milieux si différents. Talleyrand qui tout de même, dans un certain sens, naît une petite cuillère en argent dans la bouche, issu d'une famille de cour, alors que Fouché, le grand-père de Fouché, quand la grand-mère de Talleyrand était dame pour accompagner la dauphine à Versailles, le grand-père de Fouché était analphabète, ne savait ni lire ni écrire. Son père était capitaine de navire dans les environs de Nantes. Le tout début de la fortune des Fouché naît de la mer, mais on est dans des univers tellement différents et Briseville a magnifiquement joué de cette opposition en l'exagérant. Un texte de théâtre ne relève pas forcément de l'écriture de l'histoire, mais c'est une pièce magnifique.
C'est le directoire qui fait de Fouché pour la première fois un ministre de la police, de même qu'il fait de Talleyrand un ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères, dirions-nous. Peut-être pouvez-vous nous rappeler ces sinusoïdes de la carrière de Fouché, ministre de la police, et puis ne l'étant plus, le redevenant, disons, de 1798-99 jusqu'après les 100 jours.
Fouché construit véritablement la fonction de la police, même si évidemment la police existe avant lui. Le ministère de la police est créé sous le directoire. Il est relativement modeste, ce ministère. Quand Fouché y arrive en septembre 1799, le siège de la police est situé à l'emplacement actuel de l'école des Beaux-Arts, qu'est Malaquais.
Qui était Voltaire à l'époque.
Voilà, qu'est Voltaire à l'époque, qui était un endroit redouté et redoutable, où Fouché manœuvrait, tissait sa toile dans la pénombre de son cabinet ministériel, au rez-de-chaussée de ce grand hôtel particulier qui a disparu, héritier de l'aristocratie du XVIIIe siècle. C'est déjà tout un symbole, hein, cette façon de réinvestir les ors de l'Ancien Régime pour pratiquer une politique au nom de la République, de l'ordre et de la liberté. Et c'est ce conflit entre l'ordre et la liberté au centre duquel se trouve Fouché. C'est ça qui est absolument passionnant dans la carrière de Fouché policier.
D'ailleurs, l'ordre et la liberté, c'est encore le binôme que nous retrouvons aujourd'hui dans les débats sur la loi sur le renseignement. Protéger la société, c'est légitime. Liberté des individus, protégeons-la. Conflit.
De même que le binôme secret et transparence, le leitmotiv de Fouché, au fond, c'est, étant donné l'organisation le principe et la nécessité d'organiser une société nouvelle autour de l'idée d'égalité, une société atomisée en individus, le leitmotiv de Fouché sera de faire de cette société une société aussi transparente que possible, que l'on peut littéralement observé et surveillé par son observation face à un État aussi opaque que possible. Il y a cette espèce d'ambivalence, de rapport entre l'opacité des pouvoirs de l'État d'un côté et la transparence de la société de l'autre. Et au fond, dans un certain sens, Fouché invente ce paradoxe de l'homme politique moderne, c'est que plus l'homme politique est confronté à l'opinion publique, ce qu'on appelait à l'époque l'opinion publique, plus il est amené à inventer les stratégies du secret et de l'opacité. C'est ça, Fouché.
L'esprit public, disait-on aussi. L'esprit public, oui. Je fais référence à la très belle émission, naturellement, du dimanche, que nos auditeurs connaissent bien, l'émission de Philippe Meyer. Il faut de temps en temps s'envoyer comme ça des petits signes d'amitié. Des signes d'amitié. Mais restons du côté de Fouché. Il y a ce désir aussi de montrer constamment qu'il sait, qu'il pourrait dire, mais qu'il ne dira pas. C'est Madame de Rémusat qui raconte dans ses mémoires que, sous le consulat, quand Bonaparte n'était pas là, Fouché prenait grand plaisir à convoquer à l'improviste tel ou tel dont il savait qu'on avait tenu dans son salon des propos qui étaient hostiles au régime. Alors il les avertissait gentiment, puis il les renvoyait avec une sorte d'inquiétude assez vague et persistante que nul ne pouvait être désormais sûr de sa société intime. Pourtant, on était loin avant les micros directionnels qui permettent d'écouter, ouais, même quand il n'y en a pas aussi visible que celui-ci, ce que vous dites, Emmanuel de Maresquel, à vos proches sur le régime contemporain.
Oui, ce qui fait aujourd'hui comme hier, ce qui fait la puissance du secret, c'est de donner à croire qu'on le possède. Ce secret pourrait être, Casanova dit très bien ça à propos du Conseil de Venise au XVIIIe siècle, ce secret pourrait être vide. Peu importe, ce qui importe, c'est qu'on pense qu'il existe. Et ça, Fouché a été extraordinaire. Les deux, du point de vue de la méthode, les deux traits de génie de Fouché, c'est précisément la conservation du secret d'un côté, et de l'autre, c'est la manipulation des peurs. Toute la vie, toute l'action de Fouché a consisté à faire peur d'abord, à agir ensuite. C'est par exemple ce qu'il fait avec Bonaparte au moment du coup d'État de Brumaire en novembre 1799. Il ne participe pas au coup d'État, mais il donne à savoir qu'il sait exactement où en est la conspiration qui va conduire Bonaparte au pouvoir.
Le frère de Bonaparte, Lucien, au ministère de l'Intérieur, ce qui déjà fait naître une rivalité. Car je parlais des sinusoïdes, peut-être pouvez-vous nous rappeler les va-et-vient et les complexités des relations avec Bonaparte. Les deux hommes ne s'aiment pas, mais Bonaparte le craint, l'utilise, le rejette.
Ils ont tous les deux, dira Barras, et Fouché et Bonaparte, le génie de la suspicion. Ça, j'adore cette expression. Et en effet, Bonaparte finira par se méfier de Fouché au point d'organiser des contre-polices qui sont chargés de surveiller sa propre police, au point que Bonaparte pensera que la police générale de l'Empire est la police de Monsieur Fouché, devenu le duc d'Otrante par la grâce de Napoléon en 1809.
Mais c'est aujourd'hui tout le débat de savoir quel type de commission on doit créer pour surveiller ceux qui ont le droit de nous écouter. Peut-être faut-il aussi surveiller les commissions. C'est une sorte de mouvement en abîme dont on ne se...
On en était là dans un contexte qui est celui du consulat, qui est quand même un contexte de très grande tension et de très grand risque politique, où Bonaparte est pris en étau entre, je dirais, la queue de la contre-révolution, les chouans, hein, pour dire les choses un peu rapidement, et la queue de Robespierre, la queue du jacobinisme, et Fouché, dans un certain sens, a rendu d'immenses services du point de vue de la pacification de la société, a rendu d'immenses services au régime consulaire, qui est, à ses yeux et dans son esprit, un régime républicain. Car si Fouché reste fidèle à un certain nombre de choses, c'est bien à la République et au principe de la République, au principe d'égalité, au principe d'unité et d'indivisibilité de la nation et au principe de centralité de la République.
Après tout, c'est Napoléon, pas Bonaparte, qui a dit « Je suis la révolution à cheval ». Ou la République à cheval.
Un Robespierre à cheval, dira Benjamin Constant à propos de Napoléon lorsqu'il revient de l'île d'Elbe au moment du vol de l'aigle en mars 1815.
Il y a des sinusoïdes, vraiment, c'est le mot, je crois, dans les relations entre eux, puisque en 1802, Bonaparte inquiet met Fouché de côté, mais il nomme d'ailleurs une sorte de comparse. C'est le seul moment où le ministre de la Justice est en même temps ministre de la police, oui, qui, dans les républiques et dans les autres moments, ça fonctionne jamais. Vraiment, c'est le duc de Massa, dont on peut d'ailleurs noter avec curiosité qu'il est l'arrière-arrière-grand-père de Bastien Thiry, vous savez, le chef du commando qui a tâché d'assassiner De Gaulle et qui a presque réussi, mais enfin, c'est un hasard prodigieux, le 22 août 1962 au Petit Clamart.
Régnier, qui succède, donc le duc de Massa qui succède à Fouché en 1802 et que Fouché appelle une grosse bête. Évidemment, Fouché, comme Talleyrand, ne supportait pas qu'un autre prenne sa place, pour l'un au ministère des Affaires étrangères, pour l'autre au ministère de la police.
Il y a toute une anthologie à faire des propos de ceux qui ont été quelque part et qui n'y sont plus sur ceux qui les ont remplacés.
Oui.
Livre que je vous suggère.
Il y en a pour un certain nombre d'années. Les disgrâces de Fouché correspondent toujours à des grandes périodes de méfiance de la part de Bonaparte, mais aussi à des périodes où Bonaparte pense qu'il peut se passer de son ministère de la police. Quand il est disgracié une première fois en 1802, c'est au moment de la signature de la paix d'Amiens avec l'Angleterre. On sait que le danger venait en partie des royalistes réfugiés en Angleterre. Et puis ce danger se fortifie à nouveau en 1804 avec la fameuse conjuration Pichegru-Cadoudal-Moreau, et à la faveur de cette conjuration, dont on se demande si Fouché ne l'a pas un peu favorisée pour mieux la maîtriser et pour montrer à Bonaparte qu'il était toujours aussi indispensable et utile, à la faveur de cette conspiration et de l'enfermement puis de la mort du duc d'Enghien, Fouché retrouve à nouveau le ministère de la police en 1804, donc jusqu'en 1810. En 1810, deuxième disgrâce, beaucoup plus sérieuse que la première. Il se cache, il va refuser de délivrer à Napoléon les papiers d'État qu'il possède, en particulier la correspondance qu'il a entretenue avec Napoléon. Fouché sait tout des secrets de la famille impériale, et c'est ceci aussi qui a inquiété Napoléon. Il prétend l'avoir brûlé, probablement l'a-t-il conservé pendant un certain temps.
On ne brûle guère quand on est Fouché, on ne brûle guère.
On brûle pour soi, mais pas pour les autres, en général. Ce qui provoque la colère de Napoléon, et ce qui conduit Fouché, probablement pour l'une des rares fois de sa vie, à avoir peur et à s'enfuir en Italie. Cette disgrâce va durer plusieurs années, jusqu'en 1814 quasiment, 1813-1814. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Napoléon revient au pouvoir, ce qu'on appellera les 100 jours, à la faveur des difficultés que connaît le régime dit de la Restauration de Louis XVIII, en mars 1815, il va, en sachant très bien que Fouché le trahira, il va reprendre Fouché au ministère de la police, en pensant qu'il vaut mieux l'avoir à ses côtés, avec lui que contre lui, et qu'il le surveillera mieux. C'est à ce moment-là qu'a lieu cet extraordinaire dialogue. Vous me trahissez, monsieur Fouché, je devrais vous faire fusiller. Et Fouché lui répond du tac au tac, « Sire, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas de l'avis de votre majesté. » Extraordinaire. Probablement inventé, mais peu importe.
On constate que quand il est mis comme ça, écarté, parce que finalement la méfiance que Napoléon éprouve à son égard l'emporte sur le sentiment qu'il a besoin de lui. Il nomme des gens plus pâles. Je pense par exemple à Savary qui a remplacé notre homme à un moment donné. Écoutez donc cette lettre, c'est assez bref mais c'est significatif de l'idée que Napoléon se fait de la police, et c'est éclairant aussi par rapport à aujourd'hui, cette lettre qu'il adresse à Savary lorsqu'il lui confie le ministère. On est en 1810.
Pour bien faire la police, il faut être sans passion. Méfiez-vous des haines. Écoutez tout. Et ne vous prononcez jamais sans avoir donné à la raison le temps de revenir. Jusqu'à présent, on m'a peint comme très méchante un grand nombre de personnes que je ne connais pas. Les unes sont exilées, d'autres sont en surveillance. Il faut me faire un rapport sur tout cela. Je ne crois pas à tout le mal qu'on m'en a dit. Mais on ne m'a pas parlé d'elles. Elles en sont restées là. Et doivent souffrir. Ne vous laissez pas mener par vos bureaux. Écoutez-les, mais qu'ils vous écoutent et qu'ils suivent vos directions.
Écoutez ces bureaux qui vous écoutent, c'est un propos qui vaudrait pour beaucoup d'autres administrations et beaucoup d'autres époques. Vous avez reconnu l'admirable Jean Topard, l'inimitable Jean Topard, qui lisait ce texte. C'est un extrait de l'émission de Claude Métras sur France Inter le 11 août 1969. Napoléon, notre contemporain. Fouché est aussi notre contemporain, décidément.
Il est notre contemporain dans ce qu'il dit de l'esprit de la police. Cette police qui doit se laisser se faire sentir partout et ne se laisser voir nulle part. On est là dans les circulaires que Fouché ou les rapports que Fouché envoie à Bonaparte au début du consulat, mais également dans le fait qu'il considère que cette police de surveillance et de répression, lorsque l'état de la société le permet, doit se transformer en une police d'opinion et de renseignement. Au fond, avec Fouché, on est presque à l'origine de ce qu'on appellera les renseignements généraux. Et là encore une fois, la politique est la morale des circonstances. Fouché ne fait pas le mal pour le plaisir de faire le mal, ou n'exerce pas la violence d'État pour le plaisir de l'exercer. Il l'exerce lorsque celle-ci lui semble nécessaire, mais lorsqu'il peut être magnanime et user un peu moins de l'arbitraire d'État, il le fait.
C'est une chose qui peut frapper aujourd'hui, c'est-à-dire l'effort qu'il fait lui-même pour limiter son pouvoir. Benjamin Constant, qui est lui l'homme du libéralisme et qui est tout à sa haine des états policiers, a bien saisi, me semble-t-il, ce paradoxe, ce risque toujours pour la police d'aller au-delà d'elle-même. Et on voit bien d'ailleurs que dans notre moment actuel, c'est bien ce qui peut inquiéter, puisque certaines pratiques qui sont désormais autorisées étaient apparemment déjà en vigueur avant la loi qui vient d'être adoptée. Benjamin Constant disait... toutes les fois que vous donnez à un homme une vocation spéciale, il aime mieux faire plus que moins. Ceux qui sont chargés d'arrêter les vagabonds sur les grandes routes sont tentés de chercher querelle à tous les voyageurs. Quand les espions n'ont rien découvert, ils inventent. Il suffit de créer dans un pays un ministère qui surveille les conspirateurs pour qu'on entende parler sans cesse et partout de conspirateurs, fin de citation.
Oui, c'est merveilleux, c'est pointer du doigt le problème de la légitimité du fonctionnaire de police, dans un certain sens, c'est-à-dire prouver qu'il a agi, quitte à exagérer l'usage de cette action pour se faire bien voir de ses hiérarchies. Il y a quelque chose qui est très bien vu par Benjamin Constant dans un contexte très particulier. Benjamin Constant écrit ça sous la Restauration, à une époque où on assimile la police créée par Fouché à l'arbitraire et au régime autoritaire. On considère qu'un régime comme celui de la Restauration, qui est un régime constitutionnel et parlementaire, autant que faire se peut, doit être un régime sans police. On assimile volontairement cette noirceur de la police impériale, à l'organisation même tentaculaire et très autoritaire de l'Empire, surtout dans ces dernières années à partir de 1810.
C'est une pure illusion, pays sans police. Il n'y a pas de police. Vous venez de consacrer un livre, justement, à cette période de la Restauration, pour laquelle vous avez une certaine dilection, Emmanuel de Varesquel. Il n'y a pas de police, vraiment? C'est une des raisons pour lesquelles vous vous intéressez
à ce moment-là. Bien sûr qu'il y a une police, mais dans
J'étais
l'esprit...
J'étais sûr que vous alliez nous l'avouer.
Mais dans l'esprit de certains libéraux, l'utopie libérale a été jusqu'à penser que l'État pouvait se passer de police. En réalité, il y a eu l'un des successeurs de Fouché sous la Restauration, qui est Élie Decaze, qui a été par ailleurs le grand favori de Louis XVIII, était un extraordinaire.
Dans le sang au moment de
l'assassinat. Le pied a glissé dans le sang au moment de l'assassinat du duc de Berry du 120, a été un extraordinaire ministre de la police aussi.
C'est un, petite concordance des temps, c'est un des quelques rares chefs de gouvernement qui ont été nommés dans notre histoire avant 40 ans. Je pense aussi naturellement à Laurent Fabius, mais auparavant à Émile Ollivier, oui. et peut-être à Thiers.
Oui, c'était un très beau jeune homme, un très beau garçon coiffeur, disait Talleyrand qui ne l'aimait pas.
En effet, il devait guère l'aimer. Je voudrais que vous nous fassiez un peu pénétrer dans le fonctionnement même de la justice, puisque nous évoquons aujourd'hui en relation avec les inquiétudes contemporaines sur la loi sur le renseignement, nous faire comprendre comment ça marchait. Il y a des hommes qui sont des hommes de Fouché qui sont au travail. Je pense par exemple à Pierre-Marie Desmarest, qui était chef de la police secrète de Napoléon et qui mérite, je crois, qu'on s'arrête un instant sur sa personnalité ambivalente. C'est presque un pléonasme dans le cas d'un homme de police de ce genre.
Oui, c'est un personnage étonnant qui suit à peu près le même parcours que Fouché à un niveau un peu différent. C'est un clerc tonsuré de la cathédrale de Chartres.
Décidément, on va chercher des hommes de police du côté des églises.
Ce sont de très fines mouches que les prêtres.
Je pense
parfois.
Je ne sais pas s'il y a actuellement beaucoup de prêtres ou d'anciens prêtres parmi les services de la police française. C'est une enquête que nous ne manquerons pas de développer, Emmanuel de Varesquel. En tout cas, c'est vrai pour l'époque.
Oui. Vous savez, beaucoup des compagnons anciens oratoriens de Fouché sont entrés en révolution comme lui. Et un certain nombre, si on regarde le vocabulaire terroriste 93, il est repris de l'ancien vocabulaire religieux, ne serait-ce que le mot de missionnaire. Fouché participe de ce renversement de la sacralité, d'une sacralité ancienne à la sacralité de la République. Ce sont des hommes comme Fouché qui ont participé à ce phénomène-là, à ce principe de légitimation de la République par l'organisation d'une sacralité autour des pouvoirs de la République. Ça, c'est très intéressant. Donc, ces oratoriens, un certain nombre d'entre eux, vont suivre Fouché dans les méandres du renseignement et de la police secrète. J'ai eu la chance de tomber sur des archives extraordinaires qui sont les comptes secrets du ministère de la Police.
Rien n'échappe à votre attention, même ce qu'il y a de plus secret. C'est la dialectique du secret et d'Emmanuel de Varesquel.
C'est une dialectique du secret ou du dévoilement du secret qui très souvent passe par des cheminements qui sont assez peu rationnels. Quelquefois, on est soumis à des sortilèges. Quel bonheur pour l'historien. Cette découverte-là a été probablement l'une des plus passionnantes qui m'a été donnée de faire dans ce cheminement derrière à la recherche des traces de Fouché.
Qu'est-ce que vous y avez appris dans
Alors, ces comptes secrets sont intéressants parce qu'ils prouvent que le financement du ministère de la police est au 9/10 occulte, passe dans des et donc ne passe pas par le contrôle parlementaire du corps législatif du consulat. C'est quand même considérable. En 1812, c'est pas loin de 6 millions de francs de l'époque, ce qui est très important. Et ce financement est obtenu par la réquisition que Fouché fait des maisons de jeu. Il utilise les vices des Français pour alimenter et organiser, au fond, son ministère de la police.
Ça, il afferme les jeux de... On n'y songe plus guère aujourd'hui, me semble-t-il. Enfin,
alors, ce genre de cynisme-là est peut-être... peut-être particulier à Fouché.
L'État trouve de l'argent dans la française des jeux, et peut-être finalement, cela permet, par des détours à déterminer, d'irriguer les fonds secrets.
Oui,
de la
je l'espère de façon moins systématique que ne le faisait Fouché, parce que là,
comment
c'est tout de même. Alors, ça se passait comme ça. Fouché trouve à Lyon deux individus qui sont spécialisés dans les maisons de jeux, qui s'appellent les frères Perrin, et leur confie le monopole des jeux sur l'ensemble du territoire de la République. En échange de ce monopole, il les invite très gentiment, mais ça c'est contractuel, bon, c'est un contrat secret encore une fois, il les invite à reverser une partie des dividendes, une partie de la recette, c'est-à-dire la moitié. Ça représente déjà 1 million de francs en 1800, ça représente pas loin de 6 millions de francs en 1812. Et avec ce financement secret, qui n'est connu que de Bonaparte, mais évidemment, Fouché saura en user à des fins personnelles.
Vous voulez dire qu'il garde pour lui une partie des fonds secrets? Ça, c'est une chose qui n'existerait pas aujourd'hui.
En Seine-et-Marne, où il a acheté quelques 2000 hectares, on disait couramment, à chaque fois qu'on entend parler d'une conspiration, on se dit, tiens, Monsieur Fouché va acheter une ferme.
On ne prête qu'aux riches.
Bien entendu.
Oui, le financement, c'est évidemment très important.
Ce qui était passionnant dans ces archives, c'est que non seulement on avait les comptes, mais on avait aussi le nom de tous les agents secrets dont se servait Fouché, avec les rétributions qui correspondaient à chacun d'entre eux. Et évidemment, ça permet de mettre à mal la légende des 40 000 mouchards de Fouché. En réalité, en 1800, on pense que Fouché disposait de quelques 800 espions, ce qui était déjà très important, dont 80 inspecteurs de police spéciaux chargés de missions secrètes dans les départements et à Paris. Et on a, sorte de ces archives, l'ombre de quelques personnages peu connus, qui sont un peu les ancêtres de Lassner ou d'autres, comme l'inspecteur Vera, l'inspecteur Pasque, l'inspecteur Fusil, que l'on finit par découvrir petit à petit dans l'ombre portée de ces réseaux de police et de ces couloirs du ministère de la police. Et ça, c'était passionnant pour l'historien et dans le cadre de ses recherches sur Fouché.
Vous parlez de Vidocq et de Lassner.
Bien sûr.
Il avait d'ailleurs de l'humour, puisque c'est lui qui a été guillotiné un lundi, et au moment de monter les marches, il a dit « voilà une semaine qui commence mal
». Oui, ça me fait penser au mot de Lauzun aussi, quand le duc de Lauzun, quand il passe sur la guillotine, il se tourne vers son bourreau, il lui dit « aide-moi à monter, mon brave, pour descendre, je me débrouillerai tout seul
». Nous nous égarons un peu, parce que si nous sommes dans ce domaine, on peut aussi parler de Malzer. Malzer qui est allé à pied à la guillotine et qui a buté sur une pierre et qui a dit « funeste présage ». Les Romains auraient dit « rentrez chez vous ». Mais revenons à la police secrète. Je relève ce rapport écrit par Desmarest, nous parlions il y a un instant, le chef de la police secrète, qui me paraît bien délimiter le travail. Et cette lecture permet de façon subliminale de se demander ce qu'il en resterait aujourd'hui. Cette division, c'est-à-dire la police secrète, est spécialement chargée de la police d'État, c'est-à-dire de la recherche de tous les complots et projets contre la Constitution, le gouvernement et la personne des premiers magistrats. Dans les motivations de la loi qui vient d'être adoptée, il y a des textes qui sont assez semblables, même si évidemment nous sommes en démocratie et pas en régime autoritaire. Cette division surveille les libraires, la fausse monnaie, et faux quelconque, tous les faux, qui peuvent intéresser le gouvernement, les réunions clandestines et les hommes marquants de tout parti et opinion, les étrangers. Elle a l'inspection et la direction de la maison du Temple et elle propose au ministre toutes les dispositions relatives à cette prison, le Temple c'est la prison, et aux détenus. Voilà, etc.
Oui, au fond, ce que fait Fouché, Fouché est étonnant parce qu'il est à la fois l'homme du désordre et l'homme de l'ordre, l'homme de la destruction d'une société ancienne, une société d'ordre, dite d'ancien régime, et l'homme de la construction d'une société nouvelle, l'homme qui exerce la violence et l'homme qui est au cœur de la pacification de cette société nouvelle construite autour du principe de l'égalité. Et au fond, il est l'un des premiers, avec Bonaparte, à comprendre que cette société ne restera pacifiée pour peu que l'on invente des garde-fous, ne serait-ce que quasiment pour la protéger d'elle-même. Et ce sont ces garde-fous qui sont le ministère de la police et qui sont ces idées développées par Fouché de la surveillance, de la statistique, ce qu'on appelait les statistiques morales et politiques. C'est Fouché qui demande au préfet de lui faire remonter mensuellement des tableaux statistiques où tout est mis en chiffres et tout est indiqué. Les questions de surveillance et de sûreté publique, le nombre des mendiants, le nombre des vagabonds. Quand on était encore avant l'époque de l'amnistie des émigrés en 1802, le nombre des émigrés mis sous surveillance par la police, le nombre des salles de spectacle, le répertoire des spectacles, les journaux, enfin tout ce qui pouvait intéresser évidemment les subsistances et l'alimentation, tout ce qui pouvait intéresser un ministre de la police, jusqu'à la fortune des principaux concitoyens du département concerné, et jusqu'à leurs filles. On appelait ça d'un drôle de nom, la conscription des héritières. Vous savez que Napoléon voulait créer une nouvelle noblesse sur la fusion de la noblesse d'Ancien Régime et de ces nouvelles élites issues de la Révolution française. Et donc Napoléon voulait connaître le nom des riches héritières issues de l'ancienne noblesse, de la noblesse d'Ancien Régime, pour les donner à marier à ses généraux. Je vais un peu vite, mais ça se passait comme ça. Fouché participe de cette donc statistique, mais également contrôle de la mobilité. Fouché est l'homme qui, en 1802, uniformise les passeports et les met dans les mains et sous l'autorité de ses commissaires généraux de police qui exercent leur ministère, si j'ose dire, dans les grandes villes de la République.
En faisant des passeports infalsifiables, c'est le premier.
Oui, avec filigrane. Ouais, ça, c'est absolument intéressant. Malheureusement, ou heureusement, ces passeports existent encore. Et pour l'historien, c'est quelquefois la dernière trace possible qui donne à voir un personnage absolument anonyme, car sur ces passeports, bien entendu, vous n'avez pas de photographie, mais vous avez la description physique du personnage du possesseur du passeport, c'est-à-dire sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, ses signes distinctifs, et ça, c'est absolument passionnant pour un historien.
On aurait pu
presque
retrouver,
romantique d'ailleurs.
On aurait pu reconnaître Fouché. On aurait pu reconnaître Fouché puisque vous l'avez décrit avec presque autant d'efficacité qu'un passeport de police tout à l'heure.
Oui.
Emmanuel de Varesquiel. Oui, forcément, on pense là encore à l'actualité. Je ne sais pas si la NSA, par exemple, mais il n'y avait pas de lanceur d'alerte à l'époque. Je ne sais pas si la NSA est très loin de cet effort pour mettre en fiche et en statistique, ce qui est très important, une foule de renseignements, pas seulement les conversations privées de Mme Merkel.
Oui, il n'y avait pas de lanceurs d'alerte, mais il y avait des éclaireurs. Dans le monde de la police parisienne, l'éclaireur était celui qui signalait à un mouchard l'existence, à un moment donné et à un endroit donné de Paris, d'un suspect ou d'un présumé suspect, et qui passait le relais au mouchard qui ensuite était chargé de le suivre.
Il y a tout un champ de travail de l'espionnage, la surveillance.
C'est un vocabulaire
que je voudrais que nous évoquions. Pour finir, Emmanuel de Maresquel, c'est la question du contrôle de la presse, qui est évidemment très étroit et beaucoup plus étroit dans un régime autoritaire, proche de la dictature, comme celui de Napoléon. Pour introduire ce dernier moment, comme le temps passe vite, ce dernier moment de notre conversation, écoutez donc ce reportage télévisé, vous n'aurez pas les images, je vous en préviens, reportage télévisé sur l'espionnage par les services de renseignement d'un journaliste du quotidien du soir Le Monde, un reportage d'Amaury Guibert et Maxime Cuny, diffusé dans le journal télévisé de 20h sur France 2 le 1er septembre 2011.
Ce journaliste enquêtait sur l'affaire Bettencourt. Son téléphone a été espionné par les services secrets. La justice détient maintenant la preuve qu'un service de police a cherché à savoir qui le renseignait.
Que voit-on sur cette facture téléphonique détaillée? On y voit ma géolocalisation, le numéro de mes correspondants, le nom de mes correspondants, c'est-à-dire tout ce qui m'identifie.
Il y a plus d'un an, Le Monde obtient un scoop. Le récit détaillé de ce qu'a dit Patrice Demestre, gestionnaire de la fortune Bettencourt, à la brigade financière. Un témoignage qui met en cause le ministre du Travail de l'époque, Éric Woerth. Dès le lendemain, la DCRI, le renseignement intérieur, déclenche une enquête. Le but, identifier l'origine de la fuite.
Il y a eu effectivement des repérages de communications téléphoniques, ce qui est tout à fait différent d'une écoute. Le repérage des communications ne permet pas de connaître la teneur de conversation. La justice nous dira si ce qui a été fait était normal ou non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui était recherché, c'était la source de dysfonctionnement grave, parce que de l'intérieur de l'administration, il ne doit pas sortir de divulgation de procédures judiciaires en cours.
Et c'est grâce au téléphone du journaliste que les policiers pensent identifier sa source, un conseiller du ministère de la Justice, rapidement muté. Seulement, une loi protège les sources des journalistes et elle est très claire. On ne peut y porter atteinte que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie.
Un impératif prépondérant d'intérêt public, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la protection de l'État, pas la protection d'un ministre en exercice. Là, c'est un abus clair commis par l'État.
À l'automne dernier, quand Le Monde avait accusé l'État d'espionnage, la polémique avait enflammé l'Assemblée. Puis le président de la République lui-même avait dû s'expliquer.
Jamais, à aucun moment,
d'aucune façon, je me préoccupe de près ou de loin des téléphones, des lieux et des rencontres des journalistes français.
Aujourd'hui, une juge d'instruction indépendante enquête sur cette affaire. À elle de trouver qui a donné l'ordre d'espionner le journaliste du Monde, instruction politique ou initiative policière.
Je pense, Emmanuel de Varesquel, que vous avez reconnu Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Il y avait aussi Claude Guéant, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. C'est une interview qu'il avait donnée à France Info. Et puis la voix de Gérard Davet, qui est le journaliste du Monde concerné. Vous avez l'impression qu'il y a une continuité ou une rupture entre l'époque de notre cher Fouché et notre actualité ?
Continuité dans le principe, ça certainement, mais rupture dans les méthodes. À l'époque de Fouché, on n'avait pas besoin de faire écouter ou d'écouter les rédactions et de mettre les journalistes sur écoute. Tout simplement parce que la censure de la presse sous le Consulat et l'Empire relevait de méthodes très étonnantes, qui nous paraîtraient pour le coup absolument incroyables aujourd'hui, qui consistaient au fond à nommer Fouché nommait à la tête des principaux organes de presse, comme le Journal des Débats, devenu le Journal de l'Empire de l'époque, des organes de presse parisiens, nommait un rédacteur en chef qui était chargé et censé être à la fois, en même temps, le censeur. Il était tout à la fois le rédacteur en chef du journal, mais le surveillant de ce même journal au service du ministère de la police.
C'est très commode.
Oui, très commode. On est là dans une quadrature du cercle quasiment parfaite.
J'espère que Bernard Cazeneuve ne nous écoute pas parce qu'il pourrait avoir des tentations. Oui, c'est une quadrature du cercle parfaite, oui.
Ça évitait à Fouché, au fond, d'instituer, ou ça lui permettait de convaincre Napoléon de ne pas instituer un véritable service de censure qui existera après le départ de Fouché en 1810. Et au fond, quelles que soient les méthodes utilisées par Fouché, des méthodes extrêmement perverses, la conviction de Fouché, c'était de considérer, afin que la France ne s'ennuie pas, pour reprendre l'expression de Vincent Ponté...
C'est un article qui a précédé mai 68 et que l'on évoque toujours. Exactement. Pour dire quelle pression chez ce journaliste.
Que la France continue, que le corps social continue à vivre, Fouché a toujours conseillé à Napoléon de maintenir un certain degré de liberté de la presse.
Oui, il disait,
pas mettre absolument la presse sous surveillance.
Il disait, il existe une compression dans les esprits qui n'est pas naturelle aux Français. Il faut qu'ils censurent, il faut qu'ils chantent. C'est un peuple enfant, et je m'adresse au public qui nous écoute actuellement. Voilà, nous allons malheureusement devoir nous en tenir là pour que j'ai le temps de saluer votre œuvre, de rappeler que vous êtes l'auteur, Emmanuel de Varesquel, d'une magnifique biographie de Fouché. Fouché, les silences de la pieuvre, qui est paru en coédition entre Talandier et Fayard. Vous avez également donné récemment un Talleyrand, qui est reparu en livre de poche chez Talandier. Vous avez publié un livre qui s'appelle L'histoire à rebrousse-poil, les élites, la restauration, la révolution, chez 2005. Là, vous avez pris du recul par rapport à votre tâche d'historien.
Une réflexion sur la méthode de l'historien.
Et puis, vous venez de donner chez Talandier également un livre sur votre chère Restauration. C'est la révolution qui continue.
Oui, c'est un titre paradoxal. Au fond, l'idée d'essayer de tourner autour de la continuité des principes de la Révolution après la Révolution et particulièrement dans cette période de monarchie constitutionnelle dans la première moitié du XIXe siècle.
Merci beaucoup Emmanuel de Varesquel. Vous pourrez, vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie plus complète sur notre site, en particulier les références aux ouvrages de Louis Madelin et de Stéphane Zweig que nous évoquions tout à l'heure, avec également la possibilité pour tous d'écouter, de réécouter et de télécharger cette émission. Je ne dirais pas podcaster parce que tout le public qui est là me jetterait des regards propres à me fusiller. Samedi prochain, puisque France Culture a la bonne idée de consacrer un week-end à Chicago, l'histoire de Chicago, la ville d'Obama et d'Al Capone, ils sont très différents, ces deux-là. J'inviterai l'excellent historien des États-Unis d'Amérique, Pap Ndiaye, à venir nous parler de la prohibition, puisque j'apprends que du côté de Bombay, on songe à prohiber l'alcool à nouveau. Intéressante concordance des temps.
Concordance des temps.
Bien. C'était sous les applaudissements que j'essaye de réfréner du public de Blois, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, qui est à mes côtés, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme depuis 1999, toujours pour mon bonheur, par Patrick Molinier, avec à la prise de son Georges Thau, Patrice Klein et Gilles Manet, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Arnaud Plançon pour les archivinas.